se trouve dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Et vous allez voir qu'on fait un bond assez spectaculaire dans le temps. Il y a 2 jours, nous avons fêté la naissance de Jésus. Et voilà qu'en quelques jours, il a grandi et il a maintenant 12 ans. Évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 40. Quant à l'enfant, Jésus, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés, suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur répondit « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux, Joseph et Marie, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Qu'elle nous éclaire maintenant, qu'elle nous transforme et nous façonne pour être de plus en plus semblables à ton Fils Jésus, pour mieux t'aimer, mieux te connaître et mieux grandir en toi. Amen. À la famille, quelle histoire! Alors je ne dis pas ça parce qu'une partie de ma famille est là. Mais c'est vrai que souvent on dit, on choisit ses copains, mais rarement sa famille. Et pourtant la famille est si importante. C'est le lieu de toutes les joies et toutes les peines, toutes les disputes et toutes les réconciliations. C'est un formidable lieu de croissance, d'apprentissage, où on apprend à la fois l'unité, parce qu'on est parfois plus ou moins issus du même sang, et la diversité, parce qu'on a des personnalités totalement différentes. Et cette scène familiale que nous avons lue de Jésus, et surtout la réaction de Jésus, m'a fait penser à une scène que j'ai vécue avec Benjamin, mon garçon, il y a une semaine, alors que je m'apprêtais à méditer, à réfléchir sur le texte qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Ben rentrait de l'école, et je savais qu'il avait eu un petit cadeau pour son anniversaire. Parce que ses copains, voilà, avaient fêté ça à l'école avec sa maîtresse. Alors je lui ai demandé, parce que j'étais content, il était en vacances, on prenait le temps, on tournait un goûter, et je lui demandais, alors qu'est-ce que tu as eu comme cadeau ? Et il m'a répondu, en me regardant dans les yeux, comme il sait le faire assez spontanément, ça ne te regarde pas. Et bim, comme on dit, hein ? Prends ça dans des dents. Alors est-ce que la réponse que fait Jésus à ses parents et de cet même ordre-là ? Est-ce que c'est un bim alors qu'ils sont inquiets ? Alors c'est vrai qu'on connaît très peu de choses sur l'enfance de Jésus. Il y a juste ce texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Seulement ce texte qui nous présente Jésus comme un enfant. Alors il a 12 ans, presque l'âge de la majorité, entre guillemets, de la responsabilité chez le peuple juif. Mais au niveau des évangiles dits canoniques, ceux qui ont été reconnus comme faisant autorité, on a très peu de choses sur son enfance. On n'a que ça. cet enfant-là à 12 ans. Alors s'est développé au fil des siècles des évangiles dits apocryphes, des textes cachés, qui ont essayé de combler un peu ce vide-là, en présentant Jésus comme un enfant déjà divin. Alors il y a des choses assez mignonnes, hein. On voit par exemple à un moment donné, dans un évangile, Joseph en train de bricoler, il a une poutre qui est un peu trop courte, parce qu'il était charpentier, et Jésus miraculeusement rallonge la poutre pour que Joseph puisse construire son bâtiment. Il a des choses aussi assez fascinantes, assez sympathiques. Un jour, Jésus est en train de jouer avec de l'eau, il fait la boue, il sculpte des petits oiseaux, et puis Joseph, qui arrive, vient le gronder, lui dire « Mais il est interdit de travailler le jour du sabbat », alors Jésus souffle sur ces petits oiseaux et il s'envole dans le ciel. Formidable, formidable récit. Mais il y a d'autres épisodes qui sont racontés qui sont un peu plus inquiétants. Un jour que Jésus est en train de jouer avec ses petits camarades qui l'ont offensé, vous savez, comme font les enfants, qu'est-ce que fait Jésus ? Il dessèche sur place ses amis et les fait mourir. Eh bien oui, il faut prouver que Jésus est divin, qu'il est capable de faire de grandes choses. Alors à côté de ça, notre récit de l'évangile de Luc brille par sa sobriété. Aucune attitude triomphale, aucun miracle. Et pourtant Luc, s'il avait voulu continuer ou être comme ces évangiles apocryphes, aurait dû écrire des récits miraculeux pendant son enfance. Et non. On a là une banale histoire d'une famille, un petit peu étonnante, il faut bien l'avouer. Une famille qui a connu des déboires, avec une naissance quelque peu discutable, n'est-ce pas ? Pas mariés, ils ont une enfance suffisamment, apparemment, avec une vision des anges, etc. Une famille qui a des problèmes d'organisation, qui se retrouve à devoir se réfugier dans une étable alors qu'ils vont dans la ville de la famille de Joseph. Une famille qui vit en fugitif, n'est-ce pas Alex ? Pour fuir les autorités, se cacher. Bref, pas une famille très très recommandable a priori. Et puis on a cette drôle de situation, drôle d'histoire, où on a l'impression que Luc nous rejoue, vous savez, ce film « Maman, j'ai raté l'avion ». Alors est-ce qu'on a là affaire à une famille négligente qui aurait oublié son enfant, vous savez, comme les fois, les étés, des parents qui oublient sur les aires d'autoroute un ou deux enfants. Est-ce qu'on a affaire à un enfant ado rebelle, vous savez, je sais ce que je veux, moi. Alors c'est vrai, si on fait une lecture superficielle de ce texte-là, on pourrait aboutir à cette conclusion. Mais si on en reste là, je crois que ce serait dommage. Parce que je crois qu'on peut tirer un certain nombre de conclusions, d'informations qui peuvent nourrir notre piété et notre vie familiale. Mais bon, avant de trancher, ce que je vous propose, c'est qu'on mène l'enquête ensemble. On va faire une enquête sociale. Et on va se pencher d'abord sur la famille, sur cette drôle de famille, semble-t-il. Marie et Joseph sont-ils des parents négligents ? Alors, premier élément à leur décharge. Marie et Joseph sont présentés comme des personnes pieuses. Déjà, ils ont fait, dans les textes qui précèdent, tout ce qui était prévu par la religion de leur époque. Jésus circoncis le huitième jour, il reçoit son prénom, il est présenté au temple. Ils font tout ce qui est bien. Mais leur vie religieuse ne s'arrête pas là. Il est dit qu'ils vont chaque année au temple de Jérusalem. Chaque année, ils font ce pèlerinage pour se réjouir, pour se souvenir de la fête qui rappelle la délivrance de l'esclavage et l'exode. Chaque année, ils sont fidèles. Mais ils vont encore plus loin dans leur piété. Parce que certes, ils sont fidèles dans la régularité, dans la fréquence, mais ils vont plus loin. Parce que les hommes étaient seuls, obligés de se rendre à cette fête. Et eux, ils y vont en famille. La fête durait 7 jours. Les rabbins de l'époque permettait, autorisait les personnes à rester au moins 2 jours. Et le texte nous dit que Marie et Joseph restent pendant toute la fête. C'est une famille pieuse. C'est une famille qui régulièrement vit sa piété année après année. Deuxième élément, à leur décharge. L'incident qui s'est déroulé peut très bien s'expliquer. On peut comprendre qu'ils aient oublié leur enfant à Jérusalem. Alors l'enfant qui est assez grand maintenant, 12 ans. Parce qu'il est vrai que les pèlerinages à cette époque-là se faisaient en famille, en caravane, parce que les chemins étaient périlleux. Il y avait des bandits de grand chemin, n'est-ce pas ? Ceux qui aiment à détrousser le chaland, le voyageur. Alors, la caravane se déplaçait, les parents avec les parents généralement, les grands-parents avec les grands-parents, et puis les pré-ados et les ados, bien évidemment, ensemble. Alors on peut comprendre, Jésus est décrit comme un enfant sage, un enfant qui peut-être fréquente aussi ses autres camarades. Alors, ses parents lui laissent une certaine liberté, il peut aller se promener, discuter avec ses camarades tout en marchant. Et oui, à cet âge-là, n'est-ce pas les jeunes, on a envie de liberté quand même, on a envie de marcher un peu tout seul. On a envie de vivre cette fameuse chanson qu'on avait évoquée à un certain baptême, « Libéré, délivré ». Vous vous souvenez des enfants, les jeunes ? La liberté. Ah, que ça fait du bien, la liberté. Alors les parents laissent Jésus libre. Et puis remarquez que c'est seulement au bout d'une journée qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas avec eux. Une journée, ce n'est pas énorme. Et quel est, à votre avis, le moment que des pré-ados et des ados ne manqueraient pour rien au monde dans une journée ? Le repas. Ne pourrait-on pas imaginer que Jésus est en train de discuter avec ses camarades, il marche, il se raconte des blagues et des histoires, etc., et puis tout d'un coup, le ventre se creuse, il faut aller manger. Alors tout le monde se rassemble et c'est à ce moment-là, peut-être, que Marie et Joseph ont constaté que l'assiette restait pleine, que les couverts étaient là et que Jésus n'était pas là avec eux. Autre élément à leur décharge, il ne s'agit pas d'un oubli de leur part. C'est Jésus qui va décider de rester à Jérusalem. Et puis le texte de l'évangile de Luc ne nous dit pas si Marie et Joseph ont bien fait, mal fait. Il ne les blâme pas. Quatrième élément à leur décharge, notez leur réaction lorsqu'ils constatent la disparition. Ce vent de panique, ils remuent ciel et terre pour le retrouver, sans succès. Et c'est les parents qui ne baissent pas les bras, puisqu'une fois qu'ils constatent qu'il n'est pas parmi ses amis, parmi les membres de leur famille, ils retournent à Jérusalem, avec les risques de rentrer seul, d'y retourner seul sur le chemin. Bref, force est donc de constater que du côté de la famille, on a affaire à une belle famille, une sainte famille, pieuse, qui prend soin de ses enfants en laissant une marge de liberté, de confiance, tout à fait normalement. Alors allons voir du côté du pré-ado, de l'ado, Jésus. Un enfant sans problème. Jésus est écrit comme un enfant assez normal dans notre texte. Un enfant qui grandit physiquement, moralement et spirituellement dans une famille pieuse, tout à fait normale. Il voit Marie et Joseph vivre leur foi au quotidien. Mais Jésus est décrit par des éléments un peu plus. Parce que Jésus, il y a une normalité, mais il y a aussi des bonus. Jésus est décrit comme quelqu'un qui est très sage. D'ailleurs, sa sagesse va étonner, va stupéfier un certain nombre de personnes qui vont l'entourer, y compris même des personnes religieuses. Il est décrit comme doué d'une intelligence hors norme. Mais il ne faudrait pas penser que Jésus avait la science infuse. Car Jésus était un enfant normal. Il était parfaitement homme. Il vit sa foi, il pense sa foi comme un enfant de son âge. Et il va découvrir au fil du temps, dans sa relation avec ses parents, dans l'étude des Écritures, dans les relations avec les religieux, il va affiner et découvrir son identité et sa mission. Comment Jésus découvre-t-il son identité ? Qui il est ? Est-ce par des révélations spectaculaires, par des miracles, des capacités extraordinaires, des illuminations ? Le texte ne nous en dit rien. Il nous dit simplement ceci. Jésus grandit au milieu d'êtres humains. Il grandit dans sa foi, entouré d'êtres humains. Il nous parle de la foi de ses parents. Il nous parle de l'étude de la Bible et de l'étude auprès des responsables religieux. Jésus est un enfant, un ado, comme les autres. Il a la faveur de Dieu. Il a la faveur des hommes. Et il est obéissant, comme tous les enfants, comme tous les pré-ados et les ados, n'est-ce pas ? Et c'est là un élément intéressant. Jésus, lui, le Fils de Dieu, s'humilie et au lieu de se la jouer, il pourrait très bien, il s'humilie et obéit, même à ses parents. Alors dans tout ça, on arrive au constat que, bien évidemment, on a une famille normale, un enfant plus ou moins normal. Donc on ne peut pas aboutir à une conclusion très déterminante. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce que Jésus a dit à ses parents. Est-ce qu'on a là affaire à une parole d'insolence, de rébellion ? Que dit-il à ses parents ? Il faut imaginer des parents paniqués qui cherchent leur enfant depuis 3 jours, nous dit le texte. Un voyage aller, un voyage retour, une journée à Jérusalem en train de chercher votre enfant partout et vous le retrouvez dans le temple et vous lui dites « Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et Jésus qui répond « Pourquoi me cherchez-vous ? Pourquoi me cherchez-vous ? » Drôle de réponse, drôle de question à une drôle de question. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? En réalité, Jésus n'est pas en train de se rebeller, mais il est en train de faire cheminer ses parents. Il est en train de prendre une distance. Distance qui était physique, mais distance qui va être maintenant relationnelle, pour que l'espace d'un instant, Marie et Joseph prennent conscience de qui est Jésus. Qui est ce jeune garçon en train de parler ? En train de leur parler. Joseph et Marie, vous le savez, nous l'avons rappelé, ont eu un certain nombre de signes. L'apparition d'anges, de bergers. Mais l'identité de Jésus restait encore un peu mystérieuse, un peu voilée. Aussi, Jésus chemine par cette distance physique et cette distance relationnelle. Il les aide à comprendre qui il est. À comprendre ses priorités, faire la volonté de son Père, à comprendre sa mission, aller jusque la croix pour apporter le pardon. Mais cette distance et ce rapprochement ne suffit pas. Même si Marie retient les choses dans son cœur, ils n'ont pas compris ce que Jésus leur a dit. Pourquoi me cherchez-vous ? Pourquoi cherchez-vous Jésus? Alors que conclure? Nous avons une famille pieuse, normale ou presque. Un enfant presque normal, une parole qui n'est pas une parole d'insolence, mais une parole qui nous aide à cheminer, à comprendre qui est Jésus. Alors pour conclure, j'aimerais conclure d'abord par quelques éléments de théologie. Je sais qu'on est fatigué entre les deux fêtes là, mais pas la théologie désincarnée qui sortirait de son contexte, mais la théologie importante autour du Christ. Car ce texte, chers amis, chers frères, chères sœurs, nous rappelle que Jésus était humain à 100%. Il s'est développé progressivement comme chacune et chacun d'entre nous. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas parfait, mais il a grandi. Il a grandi, y compris dans sa perfection. Il a grandi et s'est senti aimé de son Père. Et il a pris enfin conscience, petit à petit, de sa pleine identité et de sa mission. Jésus, un ado comme les autres, ou presque. Nous sommes là face à une famille humaine, un enfant tout humain, ou presque. Quelques éléments de théologie autour du Christ qui peuvent, c'est vrai, nous paraître loin, distants. L'humanité du Christ, la divinité du Christ, la perfection du Christ. Mais en réalité, quand on prend conscience de ces éléments-là et qu'on les utilise pour trouver des pistes de réflexion, d'application pour nos vies, voilà ce à quoi j'ai abouti. Car, chers amis, je suis comme vous, je suis un père, un enfant, je ne suis pas parfait, je suis en route, nous sommes en route ensemble. Que retirer de ce texte? Pour nous tous, je crois que Jésus nous invite à l'humilité. À l'humilité qui se traduit par l'obéissance. Alors, ce n'est pas un mot qui est très facile, pas un mot très à la mode. L'obéissance, obéir à ses aïeuls, à ses parents, à ses grands-parents. Mais Jésus, parce qu'il était 100% être humain, si lui-même s'est humilié pour obéir à ses parents, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas obéir, respecter quiconque, comme le dit Pierre, témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères, témoignez du respect, quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous, quelle que soit son origine, son statut social, ayez du respect pour ces personnes-là. Autre piste qui s'adresse à tous, Jésus ne vit pas sa piété en solo, tout seul dans son coin, mais il grandit dans la foi, au milieu de sa famille, au milieu des personnes qui ont la même foi que lui. Il nous montre, me semble-t-il, une piste de réflexion. Notre piété ne se vit pas virtuellement. Elle doit se vivre en communauté, en famille, avec ses hauts et ses bas, ses difficultés. Mais on ne peut pas se contenter d'une vie personnelle derrière son écran. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir. Les uns des autres. Et Jésus, pour nous tous, nous montre, me semble-t-il, que pour nourrir notre foi, il n'est pas besoin de grandes choses, rien de spectaculaire, mais d'études, de méditation, de sa parole. Lui qui a découvert par l'étude scrupuleuse de la parole qui il était, nous invite à le suivre aussi dans cette étude. Quelques pistes de réflexion pour nous, famille, plus ou moins large. Pour nous, parents, Marie et Joseph nous amènent à cheminer sur le chemin de la confiance vis-à-vis de nos enfants. Apprenons-le. Apprenons-leur à faire confiance. Donnons-leur la liberté dont ils ont besoin pour grandir. Ni trop, ni pas assez. Acceptons aussi les risques de cette liberté. Mais dans la confiance que Dieu veille sur eux. Pour nous encore parents, la piété, la fidélité religieuse de Marie et Joseph sont des lumières pour notre piété familiale. Jésus a grandi dans une famille pieuse, ce qui a contribué à sa croissance à tous égards. Marie et Joseph sont tout humains, comme nous. Mais ils nous parlent de l'importance de vivre la foi en famille, de la transmettre, de la fidélité, de la persévérance. Chers parents, grands-parents, ayez confiance en ce que vous avez semé en vos enfants. Car, comme le dit l'apôtre Paul, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Le Seigneur ne nous donne pas des enfants. Il nous les prête pour un temps. En nous donnant la responsabilité de les aider à grandir, en comptant sur sa grâce. Car c'est vrai que nous avons certainement fait des erreurs, des maladresses, et nous en ferons certainement. Mais rien n'est jamais perdu avec Dieu. Alors comptons sur lui et ne cessons jamais de prier pour nos enfants et nos petits-enfants. Car Jésus est celui qui les appelle et qui les attend. Pour nous, enfants, pré-ados et ados, un peu partout, je suis aussi un enfant, Jésus, de ce texte, le pré-ado ou l'ado, vient à notre rencontre. Alors là, vous allez me dire, c'est pas juste. Parce que autant pour les parents, Marie et Joseph étaient 100% humains, autant Jésus n'est pas que humain. C'est vrai, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'importance de la théologie, Jésus était 100% humain. Conscient de son identité, de sa relation particulière avec Dieu, mais il a cheminé et grandi, comme chacune et chacun d'entre vous. Jésus, chers jeunes, vous invite à être obéissant à vos parents. Dans la confiance, on a parlé tout à l'heure de liberté et de confiance dans la contrepartie, et la contrepartie, il me semble, c'est l'obéissance. Et ce n'est pas une obéissance qui est une contrainte froide. Mais pourquoi Jésus était-il obéissant à ses parents? Parce qu'il les aimait. Lui, l'enfant, aimait ses parents. Ses parents qui avaient confiance en lui. Alors, il leur était obéissant. C'est vrai, chers jeunes, que vous avez besoin de liberté. Et ça, c'est nécessaire. La liberté pour pouvoir grandir, pour faire des choix. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont mauvais. Mais vous avez besoin de cette liberté. Mais la question est, qu'est-ce que vous faites de cette liberté? Quelle est la limite? Et ça vaut pour tout le monde, au fond. Qu'est-ce qui peut limiter ma liberté? Je vois deux limites, le respect et l'amour. Le respect et l'amour pour Dieu. Le respect et l'amour pour ses parents, pour ses grands-parents. cher jeune, bien user de la liberté, de la confiance reçue, doit se vivre dans ce cadre-là, l'amour et le respect. Et l'obéissance pour ses parents n'est pas une contrainte en tant que telle, mais un jalon pour vous aider à grandir. Regardez une petite pousse, une petite plante, qui pousse avec un tuteur. La plante s'enroule autour de ce tuteur. Le tuteur, ce sont les parents qui vous aident, qui sont à vos côtés pour vous aider à grandir. Si vous cassez une branche, le tuteur est là pour vous tenir debout. Si vous grandissez trop vite, il est là pour vous tenir debout. Mais une fois que vous avez grandi, le tuteur reste là. Il ne vous tient plus debout, forcément, c'est peut-être même d'ailleurs des fois l'inverse, mais vous grandissez. Et le tuteur qui est votre parent reste là, présent, à vos côtés. Voilà le sens de la relation familiale que nous invite à vivre l'évangile de Luc. Chers jeunes, ayez du respect, ayez de l'amour pour vos parents. Chers parents, laissez vos enfants libres, ayez confiance en eux, priez pour eux, bien sûr, veillez sur eux, mais laissez-les vivre dans la confiance. Et peut-être que vos enfants vont prendre des chemins, peut-être que vous, jeunes, prendrez des chemins que vos parents n'approuveront pas et que vous, parents, n'approuverez pas. Mais ayez confiance que celui qui fait croître ce que vous avez semé dans leur cœur, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vos paroles répétées sans cesse et sans cesse. Vous avez semé, un autre va arroser ses enfants. Et c'est Dieu qui fera croître. C'est Dieu qui, dans sa volonté, au bon moment, au moment voulu par lui, ramènera l'enfant, le fera grandir pleinement. Chers frères et sœurs, nous vivons ensemble des moments de fête en famille. Que ces fêtes en famille soient l'occasion, tout à nouveau, d'entendre ce message que nous adressent Marie, Joseph et Jésus. Message d'espérance, de confiance, d'amour. Message qui conduit à grandir ensemble, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, pour vivre en harmonie, comme le Christ nous appelle. Que le Seigneur, chers jeunes, chers parents, grands-parents, vous bénisse, bénisse vos familles et vos enfants et petits-enfants. Amen.